Alors Jean-Paul Galmiche est professeur d'hépato-gastro-entérologie de classe exceptionnelle. Durant sa carrière hospitalo-universitaire à Nantes, il a fondé un institut dont l'objectif principal est de favoriser une collaboration étroite entre les médecins et les chercheurs. Et cet institut regroupe plusieurs services ainsi que des unités de recherche clinique et fondamentale qui sont labellisées par l'INSERM et par l'INRA, Institut national de recherche en agronomie. Il est doté d'une fondation d'entreprise destinée à soutenir recherche et diffusion des connaissances. Pendant sa carrière hospitalo-universitaire, Jean-Paul Galmiche a exercé plusieurs fonctions d'intérêt général, notamment il a été vice-président du conseil d'administration de l'INSERM et président de la Société nationale française de gastro-entérologie. Il est membre de plusieurs sociétés scientifiques aux États-Unis et en Europe. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques récompensant sa carrière, notamment un Lifetime Achievement Award de la Fédération européenne de gastro-entérologie. Et Jean-Paul Galmiche va nous présenter maintenant les enjeux médicaux de l'endomicroscopie.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction. Mesdames, messieurs, merci au Collège de France pour cette invitation à parler des enjeux médicaux de l'endomicroscopie. J'essaierai, durant cet exposé, d'être fidèle à cette maxime de M. Maurice Merleau-Ponty, en particulier sur l'idée d'une recherche libre, mais aussi, comme vous le verrez, d'une recherche en mouvement. Permettez-moi d'abord de planter le décor. Le décor, et je vais le planter essentiellement dans une discipline qui est la mienne, l'hépato-gastro-entérologie, mais beaucoup de ce que je vais vous dire, évidemment, est transposable à d'autres disciplines médicales, l'urologie, la pneumologie, la chirurgie. Nous sommes actuellement dans un contexte médical, économique et sociétal qui est difficile. Il ne faut pas se le cacher. Difficile parce que nous avons à faire face à une prévalence extrêmement élevée et en augmentation de pathologies graves comme les cancers digestifs. Je prendrai deux exemples, les cancers de l'œsophage, les cancers du côlon. Nous avons à faire face à la gravité de certaines pathologies digestives. On vous a déjà parlé de certaines maladies inflammatoires comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn qui affectent des sujets jeunes et qui ont un très fort impact sur la qualité de vie de ces patients, mais aussi parce que la médecine actuelle laisse aussi un certain nombre de séquelles pour certains patients, je pense en particulier à des chirurgies mutilantes. Enfin, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le contexte économique est très contraint et que par conséquent, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'introduire une innovation. Il ne suffit pas d'avoir des images absolument fantastiques, encore faut-il en démontrer l'utilité pour la prise en charge au quotidien des patients. Quelques illustrations de cette augmentation de la fréquence des cancers. C'est une tendance qui s'observe dans tous les pays industrialisés, par exemple en ce qui concerne le cancer de l'œsophage, mais vous voyez que pour certains cancers, comme les cancers épidermoïdes de l'œsophage, qui sont, pour faire simple, les cancers du fumeur et du sujet alcoolique, la prévalence est stable, voire même en baisse. Et en fait, on assiste à une augmentation constante, progressive, d'un type de cancer, les adénocarcinomes de l'œsophage, qui se développent en fait, et ça c'est très important pour le médecin, sur une lésion précancéreuse. Cette lésion précancéreuse, on en a déjà parlé, c'est l'endobrachiœsophage, l'œsophage de Barrett dans la littérature anglo-saxonne, et c'est ce qu'on appelle une métaplasie, c'est-à-dire le remplacement d'un tissu par un autre. Vous le voyez très bien sur cette figure endoscopique, c'est une image d'un œsophage. Normalement, l'œsophage a cette coloration un peu gris-rosée qui est représentée ici, qui est remplacée par une coloration un peu saumon, chamois. Et si on pratique une biopsie et qu'on l'examine au microscope, on voit apparaître des villosités intestinales, d'où le terme de métaplasie intestinale. Si on fait des colorations histochimiques, on va noter ces cellules à gobelet, ces cellules caliciformes qu'on vous a montrées tout à l'heure, qui sécrètent du mucus. Voilà l'image typique d'une métaplasie intestinale de cet œsophage de Barrett. C'est très intéressant parce qu'actuellement, on connaît parfaitement la séquence avec tous ces éléments intermédiaires qui vont mener de l'œsophage normal, ici en haut à gauche, donc il y a un épithélium pavimenteux stratifié un peu en tuile de toit, à cette métaplasie intestinale que je viens de vous montrer, puis ensuite à cette dysplasie de bas grade, à cette dysplasie de haut grade, et enfin à ce cancer de l'œsophage qui va devenir invasif et qui très vite va se propager aux ganglions lymphatiques avec la possibilité de métastase et un pronostic qui reste actuellement extrêmement mauvais dès lors qu'il est invasif. Alors, une autre avancée extrêmement importante de ces 10 dernières années, c'est la tentative des gastro-entérologues et des endoscopistes de remplacer la chirurgie invasive par des méthodes endoscopiques qui, elles, préservent la qualité de vie et qui sont peu mutilantes. On peut, lorsque le cancer de l'œsophage est dépisté à un stade très précoce, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dysplasie de haut grade ou le cancer superficiel précoce, encore intra-épithélial, eh bien, on peut à ce moment-là pratiquer une résection endoscopique. Vous avez ici l'endoscope avec un petit capuchon plastique qui permet d'aspirer la muqueuse et on va réséquer uniquement la zone malade en conservant l'organe. Le résultat, par rapport à la chirurgie qui, dans les meilleures mains, a une mortalité qui ne descend pas au-dessous de 3%, qui a des séquelles, une qualité de vie altérée, eh bien là, on a une mortalité proche de zéro, une faible morbidité, une qualité de vie préservée et des résultats qui, à 10 ans, sont équivalents en termes de récidive à la chirurgie. Donc c'est très important de dépister précocement. Et effectivement, on a une fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi, qui est assez grande entre ce passage finalement de la métaplasie intestinale à la dysplasie de haut grade. Le problème pratique, c'est qu'en endoscopie, ces zones dysplasiques sont parfois multifocales et surtout, elles sont peu visibles, même pour un œil averti, en endoscopie en lumière blanche. Et par conséquent, on essaye de pallier cette difficulté en faisant un échantillonnage un peu aléatoire, en faisant des prélèvements que l'on effectue de bas en haut, donc dans l'œsophage, et vous voyez que ces prélèvements sont relativement vulnérants, on voit ici que ça peut saigner un peu, donc si le malade a des troubles de la coagulation sanguine, ça va saigner encore plus, et on va, tous les cadrans, tous les centimètres ou les 2 centimètres tout au long de l'œsophage, pratiquer ces prélèvements multiples, au hasard, très consommateurs de temps, et finalement avec une rentabilité diagnostique qui est assez faible, c'est ce qu'on appelle le protocole de Seattle. Alors pour essayer d'améliorer les choses, il existe déjà des techniques qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus rudimentaires que celles que vous a montrées M. Vaillage précédemment, mais qui consistent à essayer d'obtenir un rehaussement d'image ou à éclairer sélectivement, par exemple, les vaisseaux sanguins. Pour ça, au lieu d'utiliser, par exemple, un filtre où il y a un mélange en lumière blanche de bleu, de vert, de rouge, on peut éclairer le tissu avec une lumière qui va être une lumière bleue, et on va obtenir, grâce à ce procédé, qu'on appelle le narrow spectrum imaging, ici narrow band imaging, on va obtenir, vous voyez ici à gauche, l'image non traitée, qui est en haute définition, ou bien on va obtenir à droite, vous voyez, une bien meilleure démarcation entre la zone qui représente de l'œsophage normal avec ici la zone en métaplasie avec les modifications vasculaires, ce rehaussement de structure, ces structures villositaires que l'on voit beaucoup mieux. Le problème, c'est que même avec ces techniques, finalement, on ne peut pas se dispenser de biopsie dans l'état actuel des choses. Donc il faut faire des biopsies et que dans la pratique, en réalité, ces techniques, si elles permettent de réduire le nombre des biopsies, de mieux cibler les biopsies, ne permettent pas un gain en termes de lésions dysplasiques détectées et encore moins en nombre de patients avec des lésions dysplasiques détectées, ce qui, en tant que médecin, bien sûr, est notre objectif. Deuxième exemple pour vous planter le décor, là encore, celui du cancer du côlon. Le cancer du côlon est un véritable problème de santé publique. C'est, tous sexes confondus, le deuxième cancer en France, avec à peu près 35 000 nouveaux cas par an. Donc vous voyez, après le cancer du sein et le cancer de la prostate. Et surtout, c'est un cancer qui est responsable de 17 000 décès par an en France. 17 000 décès. Avec un taux de survie global, en gros, qui est de l'ordre de 50%, c'est quand même pas très bon, mais qui, par contre, est excellent dès lors que l'on va faire un diagnostic, là encore, précoce. Et on peut même faire mieux qu'un diagnostic précoce, on peut faire une véritable prévention. Pourquoi ? Eh bien parce que là encore, le cancer du côlon se développe en fait sur une lésion précancéreuse qui est un polype adénomateux. Vous avez ici un petit polype et on estime, vous voyez, qu'il faut une dizaine d'années pour que ce petit polype se transforme en gros polype où là le risque de cancérisation est élevé, puis en cancer invasif. Donc là encore, une longue séquence qui donne la possibilité d'intervenir. Et l'intervention, cette fois-ci, c'est plus du diagnostic précoce, c'est de la prévention, car on peut, si on retire le polype encore non dégénéré, on va prévenir la survenue du cancer. C'est ce qu'on fait avec la polypectomie tous les jours dans les services de gastroentérologie. Le problème, c'est que malheureusement, tous les polypes ne sont pas des adénomes. Et lorsque vous avez beaucoup, beaucoup de polypes, il est effectivement fastidieux, difficile, voire impossible, de retirer tous les polypes. Et en particulier, les polypes, certains ne vont pas dégénérer. C'est ce qu'on appelle les polypes hyperplasiques. Et puis, ces petits adénomes, finalement, ils ont un risque de transformation maligne très faible. Donc, en termes de coût-efficacité, on se pose beaucoup actuellement le problème de savoir s'il ne faut pas les surveiller, mais les laisser en place au moins pour quelques années. Alors finalement, si on essaye de résumer à travers ces deux exemples la prise en charge des maladies de l'appareil digestif aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un certain nombre de constats. Certes, l'endoscopie diagnostique, les techniques d'imagerie et l'endoscopie thérapeutique ont fait des progrès considérables durant les dernières décennies. Néanmoins, on se heurte toujours actuellement à un certain nombre de contraintes qui sont liées à la méthode histologique de référence. Il faut faire des biopsies, puis une analyse différée, puis on prend la décision thérapeutique et on sait qu'on aura de nombreuses biopsies négatives. Tout ceci a un coût qui est mal chiffré, mais qui a un coût non négligeable, car vous imaginez facilement le temps passé dans les laboratoires à examiner de nombreuses biopsies dont la majorité vont être négatives. Deuxièmement, en termes de prévention et de dépistage, il ne faut pas trop s'étonner si actuellement l'adhésion des gastro-entérologues, l'adhésion des médecins, quand vous avez vu la lourdeur finalement de ce protocole de Seattle dans l'endobrachiosophage, ces biopsies multiples extrêmement fastidieux, et bien dans tous les pays, pas seulement en France, on sait qu'actuellement l'adhérence à ce protocole, elle est finalement assez médiocre. Enfin, tout ceci est le contraire du concept de médecine prédictive et personnalisée, puisque par exemple dans le cas des polypes, on retire tous les polypes et pas seulement ceux qui vont se cancériser. Alors, peut-on faire mieux? Et dans ce contexte que je viens de vous brosser très schématiquement, quelle pourrait être la place de l'endomicroscopie? De façon assez schématique, là encore, je vais envisager des enjeux médicaux à court terme, on va dire dans les 3 ans qui viennent, et puis des enjeux à plus long terme dans les 5 à 10 ans. En termes d'endomicroscopie, il existe actuellement sur le marché 2 types d'endoscopes. Des endoscopes où le système d'endomicroscopie est intégré à l'endoscope, c'est ce qu'on appelle l'ICLE, avec une source de lumière laser, comme vous l'a montré Nicolas Yash, l'obligation d'injecter un colorant qui est la fluorescéine pour marquer les vaisseaux, un grossissement qui nous met très clairement à l'échelle de la microscopie, au niveau du micron, et des champs d'observation latéraux et horizontaux qui restent limités, mais qui permettent une observation déjà microscopique intéressante. Et puis, il y a le deuxième appareil développé par la firme française Monakea Technologies, qui est le plus petit microscope du monde, si on veut, puisque c'est une fibre qui est introduite dans le canal opérateur d'un endoscope. Ce canal opérateur, ça peut être n'importe quel endoscope qui admet cette fibre et qui va permettre donc une beaucoup plus grande facilité d'utilisation et surtout la possibilité d'acquisition dynamique à raison de 12 images par seconde. Alors je pense qu'il n'est pas besoin d'être médecin, si vous voulez, pour s'apercevoir finalement que la vision dynamique est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez eu déjà de nombreux exemples dans l'exposé précédent, mais vous voyez ici sur un polype dégénéré à gauche combien l'architecture vasculaire, l'angiogénèse est perturbée. Et ici, dans une rectocolite hémorragique à droite, qui pourtant paraît quiescente, paraît normal en aspect endoscopique, eh bien combien on voit circuler les vaisseaux sanguins, combien il persiste une conjection vasculaire importante. Donc on peut très, très clairement aller beaucoup plus loin. Alors les enjeux à court terme, je pense qu'on peut les diviser en 5 enjeux majeurs. Premièrement, peut-on faire aussi bien que la méthode de référence? La méthode de référence, ça peut être une combinaison d'imagerie. C'est souvent, il faut bien dire, encore l'histologie. Peut-on faire mieux? Peut-on faire mieux pour moins cher? Peut-on faire plus? Et peut-on faire que même si la technique est merveilleuse, elle soit accessible? Faire aussi bien, c'est le plus souvent faire aussi bien que, en fait, la méthode histologique de référence. Alors, on peut essayer de répondre de manière qualitative en vous montrant côte à côte une image de colon, l'image histologique, et à côté, l'image endomicroscopique. Et je pense que là encore, vous serez d'accord pour admettre que ces images ont une très forte ressemblance, avec quand même une différence, c'est qu'on ne voit pas en endomicroscopie les noyaux, qui sont représentés ici par cette flèche. Ça tient au colorant qu'on utilise, qui est la fluorescéine. Il faudrait, pour voir les noyaux, utiliser des colorants, mais qui ne sont pas utilisés, ils ne sont pas autorisés dans l'utilisation médicale actuelle. En ce qui concerne la PCLE, la technique par mini-sonde, on a pu établir maintenant une véritable sémiologie. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais vous voyez qu'en fait, qu'il s'agisse d'un polype hyperplasique, qu'il s'agisse d'un polype adénomateux ou d'un adénocarcinome, on a maintenant des correspondances sémiologiques, des descriptifs très précis qui permettent d'établir la nature hyperplasique, adénomateuse ou cancéreuse d'un polype. Et c'est la même chose pour l'endobrachyœsophage. Ça, c'est une façon, je dirais, qualitative de répondre. En fait, en médecine, il faut essayer de répondre de manière plus rigoureuse et plus quantitative. Et je voudrais simplement vous rappeler comment on évalue un test en médecine. Pour évaluer un test, en fait, on utilise un certain nombre d'indicateurs qui sont beaucoup plus simples que les équations que vous a montrées Nicolas Hayache précédemment, qui sont basées sur une règle de 3 accessible, je pense, à peu près à un médecin. C'est la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives et la précision. Alors, pour ce faire, on prend en général une cohorte de patients qui ont la maladie ou qui n'ont pas la maladie, et on regarde chez ceux qui ont la maladie si le test est positif ou négatif, et la même chose chez ceux qui sont des témoins. Et on détermine ainsi des vrais positifs, des vrais négatifs, des faux positifs et des faux négatifs. Et, par exemple, la sensibilité d'un test, c'est la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des sujets qui ont la maladie, alors que la spécificité, c'est la proportion de tests négatifs chez les sujets qui sont indemnes de la maladie. Il y a aussi quelque chose que je considère comme très important, qui est la valeur prédictive. Et intuitivement, vous comprenez bien, par exemple, qu'une valeur prédictive négative, c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir la maladie lorsque le test est normal, est extrêmement important dans une technique comme l'endoscopie. Si vous avez un aspect normal, un test qui vous prédit l'absence de lésion, eh bien, par exemple, vous pourrez vous dispenser de faire des biopsies. Donc, c'est là-dessus que repose en grande partie la confiance dans le test. Alors, quelques exemples pour vous donner, pour l'endobrachyœsophage, des résultats tirés de la littérature. Et vous voyez que la sensibilité, par exemple, de l'endomicroscopie est globalement bonne. La spécificité est un peu moins bonne, mais si vous regardez la valeur prédictive négative, test très important, vous voyez qu'on est pratiquement toujours au-dessus de 90%. Donc ça, c'est un élément très important pour l'usage médical que l'on peut faire de l'endomicroscopie dans l'endobrachyœsophage, par exemple. Peut-on faire mieux que le gold standard, que l'histologie ? Eh bien, d'abord, il y a des pathologies, la réponse est oui, car il y a des pathologies où on n'a pas de gold standard, on n'a pas de référence. Si vous prenez par exemple des sténoses, des rétrécissements des voies biliaires, la grande question qui se pose, c'est est-ce que cet rétrécissement est inflammatoire ou est-ce que c'est un cholangiocarcinome, cancer de pronostic effroyable ? Et actuellement, avec les méthodes classiques, comme la cholangiographie rétrograde ou le brossage cytologique des voies biliaires, en fait, on a un diagnostic certain que dans environ la moitié des cas. Très mauvais. Avec l'endomicroscopie et finalement avec ces atlas d'images que l'on peut faire, eh bien on a un diagnostic exact avec une précision de l'ordre de 80%. C'est vraiment finalement un changement d'échelle qui est extrêmement important. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est celui des tumeurs kystiques du pancréas. Là encore, ces tumeurs kystiques du pancréas sont très difficiles à reconnaître par les techniques d'imagerie et certaines tumeurs, comme par exemple les cystadénomes séreux, sont des tumeurs qui vont rester bénignes. Donc si, simplement pour avoir la certitude qu'elle est bénigne, on est amené à faire une résection pancréatique chez un patient, on va resséquer une tumeur bénigne qui ne deviendra jamais un cancer et on risque de lui laisser, par exemple, un diabète à titre de séquelles. Donc c'est très important de pouvoir en faire le diagnostic. Et actuellement, grâce à l'endomicroscopie, on peut, après ponction par éco-guidée des kystes, on peut identifier un signe qui paraît extrêmement spécifique, qui est la constatation de ce réseau vasculaire que l'on ne peut noter par l'examen histologique, mais que vous voyez qu'on retrouve ici avec ces vaisseaux sanguins très connectés. Et ce réseau vasculaire superficiel est très, très caractéristique, finalement, de ces cystadénomes séreux. Et face à cet aspect-là, on peut se dispenser, finalement, d'une chirurgie mutilante. Peut-on faire mieux et moins cher ? En fait, il faut bien reconnaître qu'en médecine, et en particulier en endoscopie, assez peu de techniques ont donné lieu à des évaluations médico-économiques. J'ai donc le plaisir de vous présenter un travail extrêmement récent fait en collaboration avec Claude Le Pen, où nous avons comparé deux stratégies. La stratégie standard dans l'endobrachiosophage, donc je vous rappelle, endoscopie diagnostique, puis des biopsies aléatoires, puis une analyse histologique, puis éventuellement, si besoin, une endoscopie thérapeutique avec cette résection, avec la stratégie tout en un, où on fait l'endoscopie diagnostique, l'endoscopie thérapeutique, si elle est nécessaire, en temps réel, des lésions dysplasiques de haut grade. Alors, je vous passe les détails du modèle, mais la conclusion, elle est extrêmement simple, et le calcul a été fait à la fois dans le système privé, où la comptabilité est plus analytique, et dans le système public, où là, c'est plus un forfait qui est comptabilisé. Et vous voyez que quel que soit le système privé ou public, on arrive à la conclusion qu'en fait, la stratégie qui couple l'endomicroscopie à l'endoscopie traditionnelle est moins coûteuse et plus efficace. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue médico-économique, une stratégie dominante, quand elle est plus efficace et moins coûteuse. Et croyez-moi, c'est une circonstance relativement rare en médecine et par les temps qui courent. Peut-on faire plus maintenant ? Alors, je prendrai là un exemple qui est celui des maladies inflammatoires chroniques intestinales, dont on vous a déjà un peu parlé, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique. Ce sont des maladies qui touchent des sujets jeunes, qui, avec le temps et lorsque les lésions intestinales sont très étendues, font courir aux malades un risque de cancérisation. Et donc là encore, l'un des objectifs de la surveillance de ces patients-là, c'est de détecter des lésions pré-néoplasiques. On a vu tout à l'heure une image de dysplasie de bas grade. Mais ce sont aussi des maladies pour lesquelles on peut utiliser maintenant des techniques innovantes, des techniques biologiques qui sont très efficaces, très coûteuses, mais aussi qui comportent un certain nombre d'effets secondaires. Et tous les malades ne relèvent pas évidemment de ce type de traitement très puissant. Alors vous avez ici une image d'une atteinte de l'intestin terminal chez un patient atteint de maladie de Crohn, et vous notez finalement ces espèces de fractures dans l'épithélium qui expliquent l'augmentation de la perméabilité intestinale. Alors, quand on essaye maintenant d'exploiter les données de l'endomicroscopie, eh bien, d'une part, on s'aperçoit que là encore, comme pour l'endobrachiosophage, on peut mieux cibler les biopsies. Vous voyez que la stratégie couplant chromoscopie et endomicroscopie permet d'avoir moins de biopsies que la stratégie classique et finalement une rentabilité plus grande. Donc on va dépister plus de dysplasies avec moins de biopsies. Mais surtout, et ça me paraît encore plus novateur et plus intéressant, si on fait une quantification et si on fait une approche de ces différentes lésions, on peut finalement séparer les malades en deux catégories. Ceux qui ont ces espèces de fractures de l'épithélium intestinal, avec ces fuites de fluorescéine, ces flaques de fluorescéine, ces flammèches. Et vous voyez que chez les patients qui ont ces lésions, eh bien, la rémission ne va pas durer longtemps et très vite, ils vont rechuter. Alors que les autres patients, ceux qui n'ont pas ces lésions, vont rester en rémission de façon beaucoup plus prolongée. Donc sur la base de ces constatations, on peut tout à fait imaginer, par exemple, de donner la thérapeutique renforcée à ces malades-là et de traiter avec des traitements beaucoup plus légers les patients qui n'ont pas ces altérations de la barrière intestinale. Enfin, peut-on faire que la technique soit accessible ? Alors là, je pense que, si vous voulez, l'accessibilité d'une technique, les enjeux sont doubles. Les enjeux sont, d'une part, médicaux, et d'autre part, ils sont économiques et sociologiques. D'un point de vue médical, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que la technique soit facilement accessible. En effet, la courbe d'apprentissage de l'endomicroscopie est finalement assez brève. J'ai d'ailleurs noté que Nicolas Hayash avait fait des progrès beaucoup plus rapides en médecine que moi en physique, je peux vous le garantir. Donc je pense que c'est assez facile finalement d'apprendre la technique d'endomicroscopie. Il faut des outils, une stratégie d'évaluation adaptée, il faut des outils d'aide au diagnostic. Et là, je pense que vous avez été convaincu par l'atlas intelligent qui vous a été proposé. Donc je pense que d'un point de vue médical, les choses peuvent être solutionnées de façon assez facile. Par contre, d'un point de vue économique, là, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir le remboursement d'une technique et aussi, je pense, peut-être de changer un peu la mentalité de nos contemporains qui doivent, pour un certain nombre de pathologies, accepter l'idée que finalement, proximité n'est pas toujours synonyme de sécurité et qu'il est indispensable pour des pathologies comme l'endobrachiosophage ou des voies biliaires posant un problème complexe d'avoir recours à des centres experts. Alors, où en sommes-nous ? J'ai utilisé une signalisation d'image extrêmement simple qui est la signalisation routière. C'est-à-dire, j'ai mis des feux verts, des feux rouges et des feux oranges. Alors, je pense qu'aux questions à court terme, j'ai mis un feu vert finalement à faire mieux, oui, parce que dans les voies biliaires pancréas, très clairement, c'est acquis. On peut faire mieux et moins cher dans l'endobrachiosophage. On peut faire certainement plus dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. J'ai mis un feu rouge en attendant le remboursement à l'accessibilité de la technique. Et j'ai mis en orange la méthode de référence. En fait, pour discuter une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technique, on la compare à une technique ancienne qu'on considère comme étant l'étalon or, et comme si cette technique ancienne était parfaite, ce qui est absolument faux. En fait, le gold standard n'est au mieux qu'un best standard, et on trouve avec l'endomicroscopie, on a un élément dynamique, par exemple, qu'on n'a pas avec l'histologie classique. Donc, on a forcément des choses un peu différentes, et cette notion de gold standard doit, à mon avis, être très sérieusement remise en question, et il ne faut pas confondre la définition d'une maladie et les critères de diagnostic d'une maladie. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors le problème en fait, qui reste un élément à mon avis de compétition, c'est que l'endomicroscopie est un progrès indiscutable, mais les autres techniques d'endoscopie font aussi des progrès. Et actuellement par exemple, et ça c'est je crois un véritable défi, c'est que les techniques d'endoscopie optimisées qui utilisent ces techniques donc de barrowband imaging par exemple que je vous ai montré, permettent également en temps réel de faire de la prédiction histologique, mais vous voyez quand même dans cette méta-analyse que si on place la barre à 90% pour obtenir une bonne certitude et une bonne confiance du praticien, vous voyez quand même que l'endomicroscopie conserve quand même un avantage significatif, toujours pareil avec notamment cet indice de valeur prédictive négative en temps réel. Donc je pense que, si vous voulez, bien sûr, il faut progresser dans le domaine de l'endomicroscopie, mais que ça reste encore une technique supérieure à ces méthodes histologiques, ces méthodes endoscopiques optimisées de narrow spectrum imaging. Alors, quels sont, pour finir, les enjeux à moyen long terme ? Eh bien, je pense qu'il y en a trois. C'est développer les applications fonctionnelles et les évaluer en pratique clinique, développer des approches non-invasives, et puis développer des signatures non plus numériques, mais développer des signatures biologiques. Je vais prendre trois exemples. Tout d'abord, les images endomicroscopiques ont l'avantage de pouvoir être quantifiées. Et avec cette quantification, par exemple, dans la maladie de Crohn, on peut noter le nombre de cryptes, par exemple, l'intensité de la fluorescence, et on peut remettre en cause le concept, par exemple, de cicatrisation. Voici, par exemple, des sujets qui ont une maladie de Crohn quiescente. Je vous ai montré tout à l'heure une rectocolite hémorragique quiescente, et pourtant, l'indice d'activité en endomicroscopie est très proche d'une maladie de Crohn active. Ces malades, en fait, ne sont pas guéris, ne sont pas quiescents. Deuxièmement, on peut combiner des méthodes non invasives. J'ai pris un exemple là, qui est celui des rejets de greffe de moelle après transplantation de moelle. C'est une pathologie évidemment extrêmement grave chez des malades qui ont une leucémie, par exemple, à qui on fait une greffe de moelle. Et il est très important de dépister précocement ce rejet de greffe qui doit être traité par décorticoïdes et qui est à distinguer évidemment d'infections opportunistes. Eh bien, en combinant deux techniques non-invasives, ici une capsule endoscopique, de grosses gélules ingérées qui donnent des images de l'intestin grêle, et l'endomicroscopie, vous voyez qu'avec l'excellente spécificité de la capsule et l'excellente sensibilité de l'endomicroscopie, on peut prédire chez des malades encore complètement asymptomatiques la survenue d'une greffe de moelle, et donc on va augmenter la corticothérapie chez ces malades. Troisième exemple d'application future, c'est l'endoscopie moléculaire. Si l'on a, au niveau par exemple de membrane cellulaire, l'expression d'antigènes d'intérêt, d'antigènes cancéreux, d'antigènes de molécules inflammatoires, on va pouvoir marquer ces antigènes avec un anticorps dirigé contre l'antigène, l'appliquer avec un spray en endoscopie, et s'il est couplé à une molécule fluorescente, on pourra révéler le signal en éclairant avec la lumière laser de l'endomicroscopie. Alors, deux exemples pour vous montrer que la fiction devient réalité. Voici un exemple où on a utilisé un peptide d'intérêt issu du criblage d'une banque de peptides potentiellement intéressant pour détecter des lésions néoplasiques. Et vous voyez que là, avec l'endomicroscopie, on peut détecter et localiser des zones de crypte dysplasique comme en histologie. Et puis, peut-être encore plus intéressant, on peut éventuellement prédire l'efficacité thérapeutique. Voilà un exemple tout à fait récent de mesure de la réponse thérapeutique ou de prédiction de la réponse thérapeutique aux anti-TNF par endomicroscopie. Il s'agit d'un travail réalisé chez l'homme où on va étudier l'expression des molécules d'expression du TNF, des anticorps anti-TNF, au niveau moléculaire dans la paroi colique. Et voyez ici que si on regarde l'ensemble des patients, en gros, 1 sur 2 répond aux anti-TNF, de façon assez prévisible, ceux qui n'expriment pas le TNF, qui ont une faible expression du TNF, vont faiblement répondre, alors qu'au contraire, ceux qui ont une forte expression des anticorps anti-TNF vont très bien répondre à la thérapeutique. C'est là un bon exemple, je pense, de médecine potentiellement prédictive et personnalisée. Alors, en conclusion, je pense qu'on peut dire dès aujourd'hui que l'endomicroscopie confocale est une véritable innovation, pas simplement une amélioration, mais une innovation qui comporte déjà des applications en routine, qui a un potentiel majeur de développement, mais en continuant à l'exercer dans ce triangle vertueux qu'on vous a montré et qui associe recherche clinique, recherche translationnelle, partenariat industriel, que c'est une opportunité absolument fantastique de développer de la bioendoscopie et de l'endoscopie moléculaire, et puis d'aller vers une approche séduisante du concept de médecine prédictive et personnalisée. C'est aussi un défi pour les médecins et un défi pour les autorités de santé pour la prise en charge de l'innovation. Mais je pense que l'orateur suivant sera plus à même que moi d'aborder ce problème. Et je termine en remerciant mon collègue, le professeur Coron, de l'unité d'endoscopie de l'appareil digestif, pour son aide à l'élaboration de cet exposé, les équipes de Monacea Technologies et puis le professeur Le Pen, avec lequel j'ai eu le plaisir récemment de développer cette collaboration médico-économique. Je vous remercie de votre attention.